26 octobre 1886, Dekhélé, Sénégal. Il y a 136 ans, un grand homme livre son dernier combat contre les troupes coloniales françaises. Au 19e siècle, le général Louis Federf est le maître d'œuvre de la colonisation française au Sénégal. Il veut établir son projet de construction de chemin de fer, s'étalant entre Dakar et Saint-Louis et traversant tous les Cayos. Mais il fera face à la résistance d'un jeune souverain qui était conscient des enjeux pour le Sénégal et pour l'Afrique. En tant que leader, chef de guerre et fin stratège, cet homme aura résisté aux attaques du colonisateur pendant 25 ans, ce qui fera de lui le guerrier qui a infligé le plus de pertes aux troupes françaises. Lui-même se considérait comme un arc qu'on peut tordre mais qu'on ne peut rompre. Pourtant, il n'était même pas destiné au trône, mais il finira par rejoindre le cercle restreint des rois qui ont gouverné simultanément deux royaumes, le Cayor et le Bawol. Cet homme s'appelle Ladjor Ngonela Tir Diop. Tout comme El Hadj Omar Fouto Yital, Samori Touré, Albouri Ndiaye ou encore Mamadou Lamine Ndramé, l'abnégation et le dévouement de cet ancien souverain du Cayor feront de lui non seulement le plus grand roi de l'histoire du Cayor, mais aussi une des légendes de l'histoire africaine. Et pourtant, peu de personnes connaissent son histoire. Donc, qui était-il vraiment? Comment a-t-il pu mener sa résistance durant tout ce temps? Voici l'histoire du grand guerrier africain, Ladjor Ngonela Tir Diop. À l'apogée de l'Empire du Ghana entre le 3e et le 10e siècle, toute l'Afrique de l'Ouest était sous sa dépendance. Le Cayor était une ancienne province de l'Empire du Ghana et qui s'était déjà émancipée du Jolof en tant que royaume indépendant vers 1649. Le premier roi ou damel du Cayor était Dethie Fougnou Koufal. Ce dernier sera poursuivi de 30 autres rois. Le Cayor, avec Mboul comme capitale, était une société très hiérarchisée, un état fort instable avec une armée très redoutée. Certains damels comme Latsouka Befal y avaient effectué un grand règne et pendant très longtemps. Jusqu'à la conquête du Sénégal, les dynasties cayoriennes ont systématiquement refusé d'embrasser l'islam, dont les adeptes étaient méprisés et souvent maltraités. Ces dynasties étaient au nombre de sept. Les Mouyoy, les Sonyo, les Ouagadou, les Gelawar, les Dorobé, les Gueye et les Bey. Les Dorobé se distinguent des autres dynasties par le fait que le roi prend définitivement la tête des armées au lieu de rester à l'arrière et de communiquer des ordres. S'il est vaincu, il doit mourir sur place. Au Cayor, les classes sont disposées en pyramide. Au sommet, par exemple, se trouvent les nobles ou Garmi, qui sont suivis des Djambour, qui sont des marabouts et simples paysans. Les nobles comme les Djambour sont classés parmi les hommes libres de la société. Ensuite, on a les Griots ou Gueul, qui sont une caste spéciale, puisqu'ils suivent souvent leur maître sur le champ de bataille en tant que porte-étendard et ils savent aussi mourir à leur côté. Ils ne doivent en aucun cas reculer, même pendant les batailles. Viennent ensuite les gens de caste ou Nienyo et les esclaves ou Djam en bas de l'échelle. Ces derniers forment la plus grande partie de la population et se composent également de toutes les personnes liées au roi, soit comme soldats, soit comme courtisans. C'est parmi eux qu'étaient recrutés les guerriers ou Tchédo. C'étaient des hommes aux cheveux tressés et portant des boucles d'oreilles, des amulettes, des colliers et des bracelets en argent. Mais sous leurs apparences plutôt féminines, c'étaient des guerriers d'élite. Et c'est à leur tête que Ladjor poursuivra son ardente carrière. Au royaume du Cayor, les critères pour devenir damel sont appartenir au clan Fall par filiation paternelle et appartenir à l'une des sept familles royales par filiation maternelle. Après El Hadj Omar Fouto Yital, le principal adversaire de l'implantation française au Sénégal est Ladjor Ngonela Tir Diop. Fils de Sakhawer Sokhna Mbaye Diop et de la Linguère Ngonela Tir Fall, Ladjor Diop est né en 1842 à Keur Amadou Yala au nord-est du Cayor. Il appartient à la noblesse de l'ethnie Wolof, les Garmi. Il descend aussi de la branche des nobles Gueye qui trouvent leur origine chez Gedo Gueye Ndiaye, plus connu sous le nom de Ndiaye Ndiaye, qui est l'ancêtre des Diop ainsi que le fondateur de l'Empire du Wallo et du Jolof au début du 13e siècle. Ladjor héritera du prénom de sa mère, Ngone. Mais il est né dans un milieu animiste. Il n'est pas musulman de naissance contrairement à la croyance populaire. En effet, l'arrière-grand-père de Ladjor, Sakhawer Fatma Diop, est le premier à se convertir à l'islam et son fils est également musulman. Mais avant la naissance de Ladjor, son père avait promis de revenir au fétiche, donc de quitter l'islam. Malgré tout, Ladjor aura l'opportunité de fréquenter l'école coranique à Longor avant de s'installer à Ngigis chez son grand-père maternel, Maïssa Tenda Ndior, roi du Cayor et du Bawol. L'histoire commence en 1856, lorsque le Cayor a pour damel Birima Ngonela Tir Fall, successeur de Maïssa Tenda Ndior et demi-frère de Ladjor. les Européens installés au Sénégal lui demandent l'autorisation de mettre en place une ligne télégraphique entre Saint-Louis et Dakar. Au début, il refuse, mais avec un cailleur en guerre civile et les musulmans de Niambour exigeant son départ, il accepte finalement, croyant que de cette façon, les Européens l'aideront à conserver son pouvoir. Mais Birima meurt avant de signer le traité. Après la mort de Birima, le Conseil des grands électeurs décide de confier le royaume à un nouveau Damel, Makodou Fall, qui est le père du précédent roi. Pourtant, cette nomination n'est pas du goût des Français, car celui-ci va refuser l'offre que les Européens avaient faite au Damel précédent. Louis Fedeb décide alors de le remplacer par un Damel beaucoup plus coopératif, Majodjo Degenkodou Fall, ou tout simplement Majodjo Fall. Par conséquent, les Tiédou de Makodou et l'armée de Fedherbe s'affrontent lors de la bataille de Gati. Fedherbe perd la bataille, mais il revient à l'attaque un mois plus tard et cette fois-ci, le Damel Makodou est vaincu à la bataille de Kouré. Makodou s'exile alors au Saloum et Fedherbe exécute la jonction télégraphique entre Saint-Louis et Dakar. Il en profite également pour annexer quelques provinces. Mais Ladjor, qui voulait aussi le titre de Damel, est très déçu par le choix des notables d'avoir élu Majodjo Fall, car celui-ci est très favorable aux Français. Pour ces raisons, Ladjor décide d'engager une lutte pour devenir maître des cailleurs et faire chasser les colons français une bonne fois pour toutes. Donc, Ladjor et son armée dirigée par son bras droit Demba War Sall écrasent Majodjo et les Français à la bataille de Koki en 1861. Ayant du mal à digérer la défaite, Majodjo demande l'aide du gouverneur Jurik Guibiri qui tente de le remettre au pouvoir. Mais Majodjo avait déjà perdu en crédibilité auprès des habitants de Kayo. En effet, il n'est décidément plus digne d'être un vrai dorobé car il n'a pas osé mourir sur place même après plusieurs défaites contre Ladjor. Ladjor en profite et l'expulse définitivement du Kayor. Après le départ de Majodjo, le Kayor est privé de souverain puisqu'il n'y avait pas un homme avec un nom phale pour remplacer ce dernier. En effet, si Ladjor Diop remplissait la condition d'être roi par voie maternelle car de la lignée Guech, il n'était cependant pas éligible au titre de Damel car étant un Diop par son père. La famille royale propose alors d'introniser Ngoné Latir Fall, la mère de Ladjor et du défunt roi Birima. Mais Demba War Sall, le conseiller de Ladjor, refuse systématiquement de voir une femme diriger le royaume. C'est à ce moment qu'il se donne corps et âme pour faire élire son neveu, Ladjor Ngoné Latir Diop. Comme l'impose la tradition, ce dernier va alors subir le rite d'initiation et de passage qui seul pouvait le faire accéder à la puberté sociale faisant de lui un homme. Il va alors se faire circoncire. La cérémonie de circoncision aura lieu à Silmara devant un grand concours de peuple et à la vive jalousie du Damel Majodjo. En 1862, le prétendant au titre bat Majodjo et monte sur le trône à sa place. À 19 ans, Ladjor devient alors le seul et unique Damel à ne pas être de la lignée Fall. À partir de son intronisation et en fin stratège, Ladjor commence à envoyer des émissaires aux pays voisins jusqu'au royaume de Trarza en Mauritanie et les invite à lutter contre la pénétration française. Ladjor savait que les étrangers pouvaient être utiles au développement de son royaume, mais un peu plus tard, il saura que leur présence est uniquement due à leurs intérêts. Comme Ladjor a réussi à établir de bonnes relations avec les royaumes voisins, les colons décident de ne pas trop s'impliquer car ils craignent une rébellion générale. Après son absence, Fedherbe revient au Sénégal et décide de chasser Ladjor du trône. En décembre 1863, Majodjo Fall est alors proclamé roi du Kayor, car celui-ci représente pour eux le double avantage d'être favorable à leur politique, mais aussi d'être très facilement manipulable. D'ailleurs, il cédera à la France les provinces du Grand Niambour, le Sagnokhor et le Mbawar. Ladjor et ses partisans unissent leurs forces en vue d'une guérilla. Sachant cela, Majodjo demande l'aide des Français. Le 8 décembre 1863, Majodjo écrase Ladjor lors de la bataille de Ndari. Mais ce sera une victoire de courte durée, car 20 jours plus tard, Ladjor l'emporte sur lui une victoire éclatante à Ngolgol. C'est la première grande victoire de Ladjor qui inflige l'une des plus grandes défaites des troupes françaises. 131 pertes pour 140 hommes français, dont le capitaine Lawrence qui tombera sur le champ de bataille. Aussi, cette victoire est très importante car elle enlève l'idéologie de l'invincibilité de l'homme blanc. Ladjor tente à nouveau de rallier les royaumes voisins à sa cause en leur informant de sa victoire contre les Français à Ngolgol. Il se rend dans le nord du Kayor au Niambour pour inciter les musulmans ainsi que les souverains du Trarza en Mauritanie à se battre. Fedherbe charge Piné Laprat de détruire au plus vite les projets d'alliance de Ladjor car il faut à tout prix éviter une révolte générale des partisans de ce dernier. Alors Piné Laprat attaque les villages partisans de Ladjor, mais ce dernier s'était déjà replié tactiquement vers le Bawol faisant croire à une fuite. Après cette terrible défaite à Ngolgol, Pinel-Laprade se réorganisera rapidement pour revenir au Cayor et prendre sa revanche. Le 12 janvier 1864, les Tiedo de la Dior et les Spahi de Pinel-Laprade se rencontrent lors de la bataille de l'Oro. Mais cette fois-ci, le combat sera défavorable pour la Dior, car les colons étaient bien préparés. En plus, ils feront recours à une nouvelle arme, la mitrailleuse ou canon. Cependant, il s'agissait d'une arme militaire non conventionnelle qui a donc été interdite en Europe car trop puissante et dangereuse. Mais l'armée coloniale compte bien l'utiliser sur le sol africain. Face à cette supériorité numérique et technologique des troupes coloniales, la Dior perd plus de la moitié de ses troupes et s'exile avec ses plus fidèles compagnons dont Dembawar, Alburingay et Massek Ndoya. Après cette victoire française, une expédition militaire est envoyée au Cayor pour rétablir Madjojo sur le trône. Mais la tête de la Dior est mise à prix et les colons se lancent dans une véritable chasse à l'homme contre lui et ses partisans. Après la bataille de l'Oro, la Dior est poursuivie avec ses troupes qui quittent le Cayor. Il s'exile au Sine où il demande l'asile politique au roi Sérère animiste Koumando Fenfamak Diouf qui refuse la demande de la Dior. Ce dernier se retrouve dans une situation assez délicate car n'ayant toujours pas trouvé refuge. Mais vers 1864, la Dior poursuit son voyage vers le Saloum où règne l'almami Mabadjahouba, disciple de El Hadj Omar Fouturital. Mabadjahouba est né vers 1809 au Rip, une région située entre le Saloum et la Gambie. Il est aussi le descendant de la noble famille des Denyanké ou Denyankobe qui avait régné sur le Foutatoro jusqu'à l'époque des almami Toukouleurs à la fin du 18e siècle. Maba a fait ses études coraniques au Cayor et vers 1850, son grand maître El Hadj Omar Fouturital fera de lui son représentant de la confrérie Tidjania et l'incite à faire la guerre sainte ou djihad aux païens et surtout aux guerriers Tiedo qui opprimaient le peuple et les musulmans. Maba devient alors un templier de l'islam noir et le maître absolu du Saloum. Ainsi, il fondera le Nyoro du Rip et se proclame chef religieux avec le titre d'Almami. Il déclare ainsi: dès que je cesserai de me conformer aux lois musulmanes, cessez d'obéir. Il fera preuve de la même intelligence et ambition que son maître El Hadj Omar. L'autre mission de Maba était aussi de protéger les cultivateurs qui étaient au bas de l'échelle des castes. Il voulait les unir et établir une justice et des règles afin de mettre fin à l'anarchie entre royaumes voisins causée par les guerriers. C'est pour cette raison qu'il avait entrepris d'islamiser les populations animistes afin de les fédérer par une seule religion avec des règles pour tous. C'est dans ce contexte que Mabadjahouba acceptera d'aider la Dior dans sa lutte à condition que ce dernier se convertisse à l'islam et l'aide à son tour dans son djihad contre les mandingues du Niani et du Wouli. En effet, la Dior qui avait grandi dans un milieu tchédo sera convertie sous le nom de Sulmaha Diop, mais il se mettra à dos une bonne partie de sa population très attachée à l'animisme à l'époque. En 1865, la Dior est devenue le principal lieutenant de guerre de Maba. Le principal objectif de la Dior, c'était aussi de reprendre le contrôle de tout le Cayor. Cependant, les colons sont convaincus d'une chose: tant que la Dior est en vie, ils n'auront jamais la paix. Ce qui pousse également le commandant supérieur de Gore Pinel-Laprade à se rendre à Akawalak. Il envoie par la suite un émissaire pour convaincre Maba de lui livrer le fugitif la Dior. Mais Maba refuse catégoriquement afin d'honorer le pacte qu'il avait avec ce dernier, ce qui est tout simplement une belle preuve de sa loyauté. Tout cela aboutit à la célèbre bataille de Pate Badian près de Pauskoto le 30 novembre 1865. Elle est aussi appelée la bataille du Rip où Pinel-Laprade avait regroupé 2000 chevaliers, 5000 fantassins et 600 cavaliers volontaires venus du Wallo, du Niambour et du Djander. Après une rude bataille, Pinel-Laprade perdra énormément d'effectifs et sera même blessé à l'épaule. Voici une autre grande défaite de l'armée coloniale au Sénégal. La Dior et Maba en profitent et saisissent deux petits canons laissés sur le champ de bataille pour symboliser leur victoire. Vers 1867, Maba décide de mener la guerre sainte vers le royaume du Sine suite à la demande de la Dior. En effet, ce dernier était toujours en colère contre Koumando Fane Diouf qui avait refusé de lui offrir refuge après la dure bataille de l'Oro. Le premier affrontement contre Koumando Fane aura lieu dans un village appelé Kerngor, situé à Djarawo, qui est la capitale du royaume de Sine à l'époque. En fait, il s'agissait plus d'une attaque surprise que d'une bataille, car ce village de Kerngor n'était pas propice aux affrontements. Cependant, ce sera un combat très dur et suite aux recommandations de Maba, la Dior retourne au Rip. Le 18 juillet 1867, Maba, la Dior et Alburingay marchent avec leur armée vers le marigot de Fandan où s'engage la bataille de Sombo Chouchoun également appelée la bataille de Sombe. La bataille est acharnée face aux CRR animistes dirigés par Koumando Fenn Diouf. Lajor et Albouri sentent que la bataille risque de tourner au désastre et conseillent à Mabadjaroba d'abandonner, mais ce dernier refuse, car il veut à tout prix mener la guerre sainte contre les CRR. Lajor et Albouri se retirent. Après plusieurs affrontements, l'Allemand Medjurib est tué lors de cette bataille. Cependant, Mabadjaroba, qui avait converti Lajor à l'islam, aura réussi à asseoir la religion musulmane dans une bonne partie du Sénégal, dont on retrouve jusqu'à présent les éloges chez les griots. En novembre 1868, Lajor revient au Cayo. Il avait perdu Maba, qui était son soutien et défenseur. Le gouverneur Biné Laprat accepte le retour de Lajor à condition qu'il renonce au titre de Damel et devienne chef de canton de Guette. Lajor accepte et s'installe au Guette en février 1869, car il comptait bien réunifier le Cayo. Après la mort de Maba, Lajor revient au Cayo en s'appuyant sur les captifs royaux de la confrérie des Tidjans, disciples du conquérant El Hadj Omar. Ils y trouvent les maladies, des sauterelles destructrices de récoltes, la guerre civile ainsi que la famine. Lajor blâme les colons et parvient à galvaniser la population qui commence à leur en vouloir. Mais Lajor, qui est un homme très ambitieux, refuse de se contenter du simple poste de chef de canton que les Français lui ont confié. Il veut maintenant reprendre tout le Cayo. Il s'allie alors avec le marabout tout couleur Cheikhou Amadou Ba, également ennemi des Français. Ensemble, ils combattent les Français à la bataille de Méré le 3 juillet 1869. Biné Laprat meurt du choléra le mois d'août suivant. Lajor, commençant à prendre de l'influence, attaque les provinces de Sagnokhor et de Djander qui lui étaient hostiles. Avec son armée, il se rend à Louga où il rencontre les troupes françaises. Un combat sanglant s'ensuit et Lajor se retire en laissant sur le champ de bataille plus de 600 cadavres Tiedo contre 21 cadavres Spahi seulement. Mais les colonisateurs savaient que Lajor n'allait surtout pas en rester là. Ces derniers continuent de livrer des batailles sans merci contre les Français pour réunifier le Cayo. En janvier 1871, les Français affaiblis par la guerre contre l'Allemagne décident de ramener la paix dans leur colonie quel qu'en soit le prix. Ils finissent par accepter l'autorité de Lajor qui sera reconnu par tous comme le dernier du Cayo. Le Cayo n'ayant jamais suffi à satisfaire Lajor, ce dernier en profitera pour annexer le Bawal et devient souverain des deux royaumes. Il rejoint ainsi le cercle restreint des rois qui ont pu cumuler les titres de Damel et de Teigne. Il sera aussi le premier Damel du Cayo à porter le patronyme Diop, double titre qu'il réussira à tenir pendant près de 10 ans. Lajor devient le gardien des traditions et le plus grand roi que le Cayo ait connu. Pour les Français, Lajor Wonelatir Diop est le maître incontesté du Cayo et du Bawal. Dans l'absolu, la paix et l'ordre sont ramenés durant son règne, les relations avec les Français apaisées et le Cayo continuent d'exister. Mais en 1874, Cheikhou Amadou Ba, pourtant ancien allié de Lajor, attaque le Djolof et prend le titre de Boba, titre que portait le roi de Djolof. Il attaque ensuite le Cayo, mais Lajor entretient désormais de bonnes relations avec la France, en particulier avec le colonel Brière de Lille. En janvier 1875, Lajor et les Français combattent ensemble et écrasent Cheikhou Amadou lors de la bataille de Boumdou. Vers 1879, des tensions se manifestent entre Lajor et son ami Demba War Sall. En effet, Lajor n'apprécie pas les remarques constantes de Demba War concernant la façon dont il agissait. Lajor destitue alors ce dernier de ses fonctions après 25 ans d'amitié. Demba War se plaint amèrement. « Je suis son plus ancien partisan. Il était seul et j'ai tout fait pour lui faire avoir son royaume. J'ai risqué ma vie pour lui, mais il ne m'en a récompensé que par l'ingratitude. » Lajor réplique en le traitant d'orgueilleux. Bref, quoi qu'il en soit, l'absence de Demba War aux côtés de Lajor se fera profondément sentir pour la suite du règne de ce dernier et notamment avec la construction du chemin de fer. D'ailleurs, c'est là où l'histoire de Lajor sera beaucoup plus intéressante. En effet, le 16 janvier 1877, le colonel Brière de Lille informe Lajor de son intention de construire un chemin de fer reliant Saint-Louis et Dakar avec des escales ou gares ferroviaires pour le commerce de l'arachide. Or, dès 1873, Lajor voulait déjà supprimer la culture de l'arachide en déclarant « Lorsqu'il n'y aura plus d'arachide, les blancs s'en iront et qu'alors je serai complètement maître du pays. » Ces vues sont loin d'être dépourvues de bon sens. Le projet du chemin de fer, dont 150 km traverseront le Cayo, s'était tourné autour de trois axes. Dakar-Saint-Louis, Saint-Louis-Bakel et Bakel-Niger. Mais le plus urgent et le plus important pour les Français était de renforcer la liaison ferroviaire entre Dakar et Saint-Louis. D'ailleurs, le 10 septembre 1879, Lajor signe un contrat avec les Français pour la construction de ce projet. Mais un peu plus tard, la Dior se rend compte que ceci pourrait affaiblir son autorité. Il aura donc bien compris que le chemin de fer symbolisait la fin des Damel, donc la disparition du royaume du Kayor, tout simplement. D'ailleurs, on avait raconté à la Dior que le chemin de fer était plus rapide que l'éclair, mais c'était loin d'être le cas. Car cette première voie ferrée, inaugurée en juillet 1885, n'avait que des trains roulant à 20 km à l'heure. Mais la Dior était bien intelligent pour ne pas s'apercevoir que l'effet néfaste du chemin de fer était en effet plus rapide que l'éclair. D'où sa célèbre phrase « Gan du tabac » ou « L'étranger ne construit point ». Bien qu'il ait signé ce contrat d'acceptation du chemin de fer, il déclarera plus tard que ce serait certainement une souris qui lui apprendrait sur terre l'installation des rails. La Dior oppose alors un veto catégorique à ce projet en appelant tout son peuple à la révolte. De grands conflits seront bientôt ouverts avec le gouverneur Brir de l'île au sujet du chemin de fer et déclarera la guerre aux Français après leur alliance. D'ailleurs, il reste toujours ferme concernant son refus de l'implantation de la culture de l'arachide car il estime que cela donnerait aux Français de nouvelles chances d'imposer leur domination et rester au Sénégal. En 1882, la Dior, toujours Damel du Kayor indépendant, est soutenue par son neveu Sambalaw Befal. Ensemble, ils déplacent les populations des zones où le tracé de la voie a été effectué. La Dior sollicite à nouveau l'aide du Djolof, du Fouta et du Trarza, mais le général Servatius envoie des soldats contre lui. En mai 1883, les troupes de la Dior sont vaincues par le général Alfred Dodds et Sambalaw Befal est capturé. La Dior se rebelle donc à nouveau et doit se réfugier au Bawol. En janvier 1883, les Français se précipitent pour installer sur le trône de Kayor le Damel Sambayaya Fall, connu également sous le nom de Amaringone Fall II. Mais celui-ci manque clairement de leadership et reste très favorable aux colons. Il signera même le traité pour la ligne de chemin de fer. En plus, il avait honteusement fui devant les troupes de la Dior. Mais il a fallu l'intervention énergétique du captif Sambalaw Befal et de Demba Warsal pour arrêter l'envahisseur la Dior et l'obliger à se retirer dans la Djolof chez son neveu et lieutenant Alburingay. C'est donc dans ce contexte très particulier que Sambalaw Befal sera intronisé Damel du Kayor, fonction qu'il occupera pendant 3 ans. Mais lui aussi sera favorable au projet du chemin de fer déjà entamé et placera officiellement le Kayor sous protectorat français. Ayant longtemps combattu à l'ombre de la Dior, ce roi du Djolof nommé Albouri Senabungay, connu plus spécialement sous Albouri Ndiaye, a joué un rôle plus qu'important dans l'histoire de la Dior. En effet, il a grandi avec ce dernier et participé à toutes ses batailles. Il défend aussi les mêmes causes que la Dior, à savoir la lutte contre la suprématie française. Or, Sambalaw Befal, qui avait aussi des droits incontestés à la couronne du Djolof, n'avait qu'un désir, chasser le roi du Djolof Albouri Ndiaye afin de prendre sa place au trône. Connu pour sa jeunesse, son courage et sa détermination, Sambalaw Befal était aussi un prince envieux et jaloux de la réputation et de la puissance éclatante du prince Albouri Ndiaye qui était alors surnommé l'homme invincible. Par conséquent, Sambalaw Befal provoque ce dernier et se fait battre lors de la bataille de Guilé le 6 juin 1886. Albouri tente d'envahir le Kayor, mais Sambalaw Befal propose finalement une grosse somme d'argent pour compenser les dommages de guerre. De ce fait, ce dernier part à Tivaouane où il demande une aide financière aux riches commerçants français, mais les esprits s'échauffent et Sambalaw Befal est abattu par les lieutenants Chauvet et Spicer le 6 octobre 1886. Comme il n'y a plus de Damel au Kayor, la France impose sa loi comme d'habitude et supprime le titre de Damel. Le Kayor est ainsi divisé en 6 provinces distinctes et Demba Warsal est appelé à la présidence de ces provinces. Bizarrement, la Dior ne semble pas être attristée par le sort de Sambalaw Befal. Il déclare d'ailleurs aux Français « Ce qui est survenu entre vous et Sambalaw Befal est un bien pour moi. Ce que vous avez fait à ce Damel me fait plaisir. Cette mort ne me fâche point, mais aujourd'hui le Kayor n'a plus de maître. Si on met le Kayor dans ma main, on ne dérangera rien de ce qui existe. » Mais c'était malheureusement trop tard pour lui, car le système des Damel a désormais fait son temps. Infatigable et refusant le fait accompli, la Dior poursuit la guérilla jusqu'au jour où il tombe près du puits de Dérélé le 26 octobre 1886 à l'âge de 44 ans, entouré de ses derniers tchédous. Il aura livré au total 44 batailles durant son règne, ce qui est d'ailleurs très impressionnant. Le capitaine français Valois raconte le déroulement de cette bataille de Dérélé d'une rare violence. Il nous livrait un combat acharné. Pendant un quart d'heure, on se fusillait de si près que beaucoup d'ennemis avaient leurs vêtements brûlés par la poudre. La Dior restait sur le champ de bataille avec deux de ses fils et 78 de ses guerriers les plus renommés. Aucun résistant en Afrique occidentale française n'a infligé des pertes aussi considérables aux troupes françaises que la Dior. On raconte même que l'indomptable guerrier est tué par une balle en or, tout simplement fondue pour lui car les balles classiques n'avaient aucun effet sur son corps. Malgré toutes leurs tensions, c'est Demba Ouar qui a pu sauver et cacher son corps. En effet, selon certains témoignages, c'est Demba Ouar qui aurait récupéré le corps de la Dior durant la bataille et l'enterré très discrètement afin d'éviter que les colons ne coupent sa tête et le brandissent en guise de trophée comme ils avaient l'habitude de le faire. La tradition orale présente la Dior comme un guerrier intrépide et irréprochable. Par ses actes, il incarnait toutes les vertus africaines et est aujourd'hui considéré comme un héros national du Sénégal, un grand stratège et l'un des plus sérieux résistants aux attaques coloniales en Afrique. Même Federbe, son plus grand ennemi, rend un grand hommage aux partisans de la Dior. Ceux-là, on les tue, mais on ne les déshonore pas. Hommage qui est désormais la devise de l'armée sénégalaise. De plus, la Dior avait aussi comme devise « Je veux vivre digne et heureux », ce qui explique certainement son dévouement pour le Kayor et pour le Sénégal. Après la mort de la Dior, le plus grand opposant politique et militaire à la colonisation française sera Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie musulmane du mouridisme. Il reprendra le flambeau de la résistance wolof qui devient pacifique et culturelle. On comprend donc qu'avec la Dior comme avec Cheikh Ahmadou Bamba, le peuple wolof n'a jamais cessé de se battre pour son identité et pour son indépendance. Comme tous les grands conquérants, la Dior avait aussi ses chevaux préférés. L'un d'eux s'appelait Lichin, ce qui signifie épervier, et un autre se nommait Souslopkani, ce qui voulait littéralement dire couscous de piment. Mais le cheval le plus prisé et le plus utilisé par la Dior est Malow, qui symbolise l'Afrique, la liberté, la dignité et l'honneur. En effet, Malow était son favori dans ses grandes batailles, notamment celles de Ngolgol, Loro et Dérélé. Ce qui est particulier aussi avec ce cheval, c'est qu'il refusait de voir le chemin de fer qui symbolisait la domination coloniale. Selon certaines sources, il se serait volontairement effondré près des voies de Tiwawan pour montrer sa fidélité à la cause de la Dior. On arrive donc à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé à mieux comprendre l'histoire de la Dior. Et on se retrouve très prochainement.